Chers téléspectateurs, l'homme qui vous parle, pendant qu'il en a encore le droit, était jusqu'à lundi soir un seigneur, un féodal, un potentat, bref, un homme marié. Depuis mardi matin, notre règne est fini.
Langue de
fraude.
Une émission féministe sur Fréquence Paris Pluriel,
106.3 FM.
En fait, ce qui nous a réunis, c'est ce désir commun de faire avec d'autres, en fait. Trouver d'autres femmes qui ont ce même désir.
Langue de fronde.
Langue de fronde.
Une émission féministe sur 106.3 FM, Fréquence Paris Pluriel.
Tous les deuxièmes lundis du mois de 18h à 19h et en rediffusion tous les troisièmes jeudis du mois de 7h à 8h.
Vous savez, François, j'aurais une petite confidence à leur faire.
On est bien sur l'onde de fronde.
Bonjour et bienvenue à Langue de fronde sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. Aujourd'hui sur le plateau, nous avons Lucille.
Salut.
Et à la technique, et moi, Eliam. Et à la technique, nous avons Théo et Joséphine qui va arriver. Nous sommes enchantés d'être à nouveau sur les ondes pour une émission qui parlera cette fois de boulangères dans les Hautes-Alpes et des femmes dans la montagne. Alors pour commencer, nous allons écouter un son sur la rencontre avec trois boulangères qui travaillent dans un fournil dans les Hautes-Alpes. Et c'est Lucille qui va vous présenter ce son.
Tout à fait, merci Eliam. Et ben oui, et alors tout d'abord, je remercie Longue de Fronde et la radio associative Fréquence Paris Pluriel qui donne l'opportunité et l'espace pour proposer des voix, des réflexions, et donne l'opportunité de s'essayer à la radio, car vraiment je m'essaye pour le coup, pour le moment. Et bien sûr, je remercie Julie, Betty et Cécile qui m'ont autorisé à enregistrer leur voix. Donc là, maintenant, je suis assez impressionnée parce que déjà, on n'est que deux avec Eliam sur le plateau. En plus, on va écouter un montage que j'ai réalisé avec mes quelques notions de logiciel de montage et une écoute radiophonique qui est encore à aiguiser. Mais je suis contente d'avoir fait le pas, d'expérimenter, d'être là et de vous partager ces sons. Donc on part dans les Hautes-Alpes exactement, c'était cet été, ça se passe dans un fournil, un petit fournil de pain au levain et avec des boulangères qui vont vous partager leurs réflexions, des parcours simplement. Bonne écoute.
Ok, et ben messieurs, dames, mesdames, comment ça, t'es en train de me dire que tu fais ça ou...
Non, mais je vous annonce que le façonnage est terminé.
Tu le mets un peu fin et long.
Ok. Ça signifie qu'on va pouvoir enchaîner sur les bribris.
Non, mais il y a le P2.
Bah, le P2, il n'est pas prêt là.
Alors là, c'est pas
du tout. Il y a le PLF.
Tu peux venir enchaîner P1, P2.
Oui, mais, non, mais ça va s'enchaîner. Non,
nous sommes au fournil de l'Amourette. Ce petit fournil tout en bois est perché à 1200 mètres d'altitude dans la vallée de Réalon, dans le hameau Les Rousses. Au-dessus, il y a les Chabrières, montagne bien connue dans le coin, car très reconnaissable avec ses aiguilles. Et en dessous coule le Réalon, qui prend sa source dans le massif des Écrins, plus loin, au fond de la vallée. Sur une carte, cette vallée se situe au sud-est de la France, dans le département des Hautes-Alpes, entre Gap et Briançon, au niveau du lac de Serponçon. Dans ce fournil, c'est une équipe féminine qui y travaille. Et ce sont les voix de trois d'entre elles que vous allez entendre. Les voix de trois femmes qui vivent en montagne et qui travaillent toutes dans le fournil de l'Amourette.
Alors, 2 euros, s'il vous plaît.
Ben moi, c'est Betty. Voilà, ça fait 20 ans que je vis dans les Hautes-Alpes. Et depuis un an, j'ai mis les pieds au fournil de l'Amourette.
Et moi, c'est Cécile. Et depuis quand je suis dans les Hautes-Alpes? Depuis très longtemps, voilà. Et j'ai atterri au Fournil de l'Amourette il y a un peu plus d'un an. Dès l'ouverture, en fait, Julie, elle a ouvert son fournil. Et tout de suite, en fait, elle s'est mise à faire plein de pain. Et tout de suite, elle s'est rendue compte que ce serait cool d'être deux. Donc, assez rapidement, elle m'a embauchée. Donc, j'ai dit oui. J'avais jamais fait de pain de ma vie. Et Julie m'a tout appris. Et je suis devenue boulangère. Voilà, il n'y a qu'un seul truc que je touche pas, c'est le four. Donc, heureusement que vous le faites, parce que le four, c'est pas mon truc. J'aime pas ce truc. Ça me fait peur. Mais ouais, je me suis spécialisée dans le façonnage, qui me plaît beaucoup. Donc je suis façonneuse, ouvrière façonneuse. Voilà, c'est pas mal, ouvrière façonneuse.
Et moi, je suis ouvrière fourrière.
Je m'appelle Julie. Voilà, moi, j'ai fait des études dans la bio. Après, j'ai bifurqué dans l'éducation. Après, j'ai travaillé dans l'éducation populaire. Après, j'ai fait du maraîchage et... Maintenant, voilà, je suis boulangère. Et voilà, c'est à suivre. Alors, je pense que j'ai un caractère un peu entreprenant. Il y a un côté que j'aime, que ça soit dans l'éducation populaire, dans le maraîchage, dans le pain. Il y a ce que, dans l'alimentaire, en tout cas, il y a ce côté-là de nourrir le peuple. Dans l'éducation populaire, c'est de donner l'éducation à tout le monde. Et voilà, ça, c'est quelque chose qui me tient bien à cœur. Et qui me porte dans ces projets-là.
Et c'est quoi ce fournil? Tu le décrirais comment?
C'est un petit local, tout en bois, qui est très joli. J'avais pensé au départ travailler toute seule pendant un an, et puis voir ce que ça donnerait. Au bout de 15 jours, j'ai embauché ma voisine.
Elle est arrivée là comme une fleur, elle a monté le seul commerce de toute la vallée, et actuellement, on est quand même 5 salariés.
Et ça marche.
L'été, et ça marche.
Donc ça prend je pensais pas que ça prenne aussi bien. Je suis contente, les gens ont l'air contents, j'ai des bons retours, des produits, des pains.
Pourquoi t'as créé ce fournil?
J'ai arrêté le maraîchage, c'était un métier que j'aimais beaucoup. On a déménagé avec mon conjoint. Un peu du jour au lendemain, j'ai arrêté une activité qui était quand même aussi très 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 prenante. d'avoir un enfant, on tape en plus une maison, je me suis occupée aussi de mes parents. Enfin, il s'est passé beaucoup de choses quand on a déménagé, que j'ai arrêté mon activité. Et j'avais besoin de recréer une activité professionnelle qui me porte. J'ai travaillé un peu à la Biocoop, à Gap, j'ai travaillé à la station, j'ai eu des boulots salariés. Je me suis beaucoup questionnée là-dessus. Je me sentais emprisonnée des fois. J'étais pas libre de ce que je voulais faire, de s'il y avait des choses à changer. Il fallait que je me taise ou que j'en parle. Et puis à une réunion, enfin voilà, c'est compliqué. Et du coup, j'avais vraiment sentiment, que ça donnait pas de sens à ma vie. J'avais besoin, j'ai cette énergie à vouloir peut-être maîtriser les choses. Et du coup, j'ai vraiment eu très vite envie de refaire mon activité professionnelle. Alors, j'ai pensé refaire de l'agriculture, chercher du terrain, mais je sais ce que c'est de chercher du terrain. C'est le parcours du combattant. J'avais pas forcément cette énergie, avec en plus un enfant. J'étais très attirée par la nourriture, j'avais pensé faire un petit snack. Je me suis dit, je vais passer mon CAP candidat libre, je vais faire du pain, il n'y a pas de pain au village, donc si je fais un petit snack, je ferai aussi un peu de pain pour les gens du village. Et j'ai commencé à faire du pain, j'avais commencé à faire un peu de pain au levain, et ça m'a plu, et je suis allée dans des boulangeries en me disant, je vais aller voir pour mon CAP. Bon, j'arrivais pas à aller dans des boulangeries traditionnelles, j'allais tout le temps dans des boulangeries de pain au levain. Et voilà, et du coup, le toucher de la pâte à pain, sa vie, la levée, ça m'émerveille, j'adore, c'est doux, c'est... je sais pas, ça m'a beaucoup plu. Peut-être d'arriver en montagne en me disant, dans une boulangerie, j'aurais bien chaud. Il fait un peu frais ici. Je venais de Corse avant. Et puis encore, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, cette chose de le pain, voilà, ça se retrouve à toutes les tables, tout le monde en mange. C'est un produit populaire et ça me plaît énormément. Et voilà, du coup, je me suis orientée en me disant, mais pourquoi je ne ferais pas que du pain ?
Dans mon sous-sol crasse où brûlent mes fourneaux, où les âmes damnées grillent de bas en haut, regardez qui est là, qui attise les flammes, régnant sur les enfers, le diable est une femme. Rien d'étonnant, n'est-ce pas? Des brunes jusqu'aux blondes, par elles sont advenus tous les malheurs du monde. Le diable est une femme et vous vous en doutiez, la place d'une femme n'est-elle pas au foyer? Sur mon lit calciné, lascive et si cruelle, comment pour m'invoquer faut-il que l'on m'appelle? Mes diables et mes hommes, et Dieu même en personne, tout simplement me nomme patronne. Depuis tant de prophètes, de savants vertueux, l'équation est logique, c'est la preuve par deux. On l'attend proclamer sur un ton formidable, le diable est une femme, les femmes c'est le diable. Et qu'elle soit victime ou qu'elle soit complice de leurs malheurs et fils et de leurs maléfices, frappés dans les premiers talibans ordinaires, ces démons adorés car il faut les faire taire. Sur mon lit calciné, lascive et si cruelle, messieurs, venez m'aider à ôter mes dentelles dans vos brûlants émois. Ainsi que je l'ordonne, allez, appelez-moi patronne.
J'ai fait plein de métiers différents, beaucoup beaucoup de choses très différentes. J'aime bien quand c'est varié, moi, j'aime bien quand ça change. Donc à côté de la boulangerie, mon activité qui est pas, je peux pas dire que c'est mon activité principale en temps, par contre c'est mon activité principale dans mon cœur, c'est le chant et le clown. Donc, j'ai créé et joué plusieurs spectacles, et actuellement, j'en joue deux. Un duo, chant accordéon clown, avec une partenaire accordéoniste et chanteuse, et un solo de clown, voilà.
J'avais entendu dire qu'au Fournil de l'Amourette, il y avait besoin, il cherchait quelqu'un, et j'avais pas trop envie que ça me passe sous le nez. Donc, à la fin de l'été, en fait, je suis vite... aller frapper à la porte pour dire « bah ok, je viens, j'arrive lentement, mais j'arrive !» Et puis voilà, en septembre, c'était parti.
Et qu'est-ce qui t'a appelé dans le Fournil de l'Amourette ?
Eh bah, ben le pain, parce que j'ai déjà travaillé le lait, fait du fromage. En fait, j'alterne entre des périodes de boulot plus cérébrales et sociales et des périodes de boulot manuelles. Et puis voilà, le pain, en fait, ça m'apaise cérébralement. Voilà, pas besoin de réfléchir, j'avais à nouveau besoin de me servir de mes mains. Et puis j'aime bien le vendre en fait, parce que je trouve que c'est un produit noble, un peu comme le fromage. Et du coup c'est facile de... Enfin, il n'y a pas besoin de convaincre les gens, voilà, que c'est un bon produit. Et c'est particulièrement là que j'aime ce boulot, où je vois l'intérêt de faire ce boulot, dans le lien. En fait, c'est vraiment ça qui me... C'est pas la passion du pain, ou quoi que j'adore manger du pain et manger du bon pain, mais c'est plus l'échange avec les gens et les retours positifs aussi. Je trouve que ça fait du bien, quand même.
Mmh. Et ouais.
Et je retrouve ça... Il y avait ça dans le fromage, tu vois. Quand je vendais les fromages, je pouvais parler de mon fromage et on parlait de mon fromage. Voilà, on parlait de fromage, quoi. Il y avait une reconnaissance sociale... Quand tu es agriculteur, il y a une reconnaissance du statut par la société que tu as moins quand tu travailles en crèche, par exemple. Je suis crèchière. Ah, c'est bien. Par contre, si tu dis je fais du pain, je fais du fromage, alors là, tout de suite, c'est ah bon, mais tu fais du pain, mais où ça, mais, hein. Ça intéresse les gens et c'est valorisant. Moi, ça m'a vachement manqué quand j'ai arrêté les chèvres,
cette place dans la société. Tu te rappelles, on en a beaucoup discuté,
Cécile ? Ouais, on en avait beaucoup parlé. Ça a été une perte de repères. J'ai mis des années à m'en remettre, en fait. On n'était pas censé arrêter, nous, d'être agriculteurs. Et c'est vrai que ça crée une perte d'identité très forte que j'ai jamais retrouvée dans des boulots salariés derrière. J'ai eu aussi, moi, des boulots salariés qui m'ont vraiment fait chier, quoi. Et je trouvais pas du tout mon compte. Donc c'est vrai que ce fournil, il y a quelque chose. Déjà, je reconnecte avec un projet qui a avorté. Parce que finalement, j'avais jamais fait de pain. Et c'était rigolo, du coup, de retrouver ça qui me faisait vraiment triper. C'est-à-dire de travailler avec des nanas et de faire du pain.
En fait, on était agricultrices, toutes les deux. Cécile, elle était maraîchère. Et moi, j'avais des chèvres. Voilà, pendant 5 ans, j'ai vécu 10 ans sur la chèvrerie, mais je me suis installée officiellement pendant 5 années. 5 années à courir après les biquettes.
Ouais, c'était génial. Moi, j'ai même eu l'occasion d'être ta salariée quand même.
Ouais, et on a eu un tracteur en commun.
Et on a eu un tracteur en commun.
Et même, on avait parlé d'association à un moment donné. Oui. Je ne sais pas si tu t'en rappelles.
Carrément, ça nous faisait trop rêver. De s'associer et de faire un truc de meuf, quoi. On en avait marre des fois de nos mecs, là. Et on rêvait. On rêvait de s'associer.
On rêvait de bosser ensemble, en fait.
C'est arrivé avec le fournil, c'est quand même grâce à Julie,
oui, ben
tout ça.
On travaille pas beaucoup ensemble.
Mais... En fait, on travaille jamais ensemble.
Non, puis peut-être qu'il vaut mieux pas, finalement.
Tous les hommes du quartier la trouvaient fort jolie et appétissante. Un jour, alors qu'elle se rendait au marché, Sam Mella, avec ses miches en avant, fière comme un taban.
Boulanger ensemble, c'est aussi se raconter des histoires. Et d'autant plus, si une clown est dans l'équipe.
La première fois, elle ne dit rien. La deuxième fois, elle ne dit rien. La troisième fois, elle reste à couette. À la quatrième, elle se baisse et dépose un baiser dans le creux de sa gorge. Là, elle sursaute. Tout son corps tressaille. Toutes ses tensions musculaires qui avaient presque disparu revinrent d'un coup sec. Elle attrape les deux oreilles de l'homme gourmand et lui lèche la face de sa langue répandue du bas jusqu'en haut. Ah ! Écœurée, l'homme gourmand se recule, fait une grimace de dégoût. À ce moment-là, elle se relève, elle se met à genoux sur la table, elle se met à quatre pattes et commence à grogner telle une lionne, en bavant odieusement. Elle se transforme, la petite boulangère appétissante, en bête immonde sur la table de massage. Oh, la vile petite boulangère, elle pousse des cris gutturaux, des ricanements de sorcière. Et la petite boulangère fait une prise de jujitsu à l'homme gourmand et lui dit: mon petit pote, bats les pattes, à ton cul, je préfère une chatte. C'est la conclusion de ma petite histoire.
Et là, au fournil, il y a surtout une équipe de femmes, non ?
C'est une ambiance très féminine, très lunaire, très... Voilà. En fait, c'est ce qui m'a séduit au début. Et j'adore ça. Bon, mais quand même, des fois, c'est un peu électrique. Mais ça a son charme, voilà.
Qu'est-ce qui... Toi, Betty, t'as tiré dans le fait de travailler entre femmes. Je sais pas si ça, c'est quelque chose qui t'a tiré aussi.
Moi aussi. Ouais. Plus que travailler entre femmes, travailler avec des copines. C'est ce qui m'a tiré au fournil, c'est de connaître les personnes qui y travaillaient. C'était rassurant d'envisager de bosser avec Cécile, que je connais depuis longtemps. On a déjà travaillé ensemble, plus ou moins, et voilà. Donc moi, j'avais surtout besoin de rire, en fait, au travail, de blaguer, d'être en sécurité. Ouais. Et puis bah, y a vachement de moments intimes, c'est marrant. Ces journées de filles, soit c'est boulot, c'est sérieux, soit ça se crêpe le chignon, ça gueule un peu, ou soit on est dans les confidences et puis on y va bien profondément dans les confidences. Voilà. C'est sympa. Ouais. pour ne pas parler des humeurs de règles aussi qui font la loi au fournil. Voilà.
Ouais.
À tour de rôle.
Dans cette équipe, il y a quand même plein de déconnes, quoi. Mm. On aime bien se marrer, donc... même si j'aime pas beaucoup travailler, ça rattrape bien le coup, je trouve. On se marre bien. Et finalement, on se sentir bien. Enfin, moi, j'arrive à me sentir bien avec tout le monde dans cette équipe, en fait. Et chacune est différente. On a toutes nos sensibilités, on a tous nos petits points...
Des vexations.
Ouais, voilà, on a tous nos petits trucs, en fait. Et c'est chouette. Moi, j'adore. C'est une belle aventure humaine, en fait.
Bon, l'avantage, c'est qu'en petit groupe, on peut se dire les choses assez vite. On peut se dire presque directement. Ça oblige à ça. Plutôt que de faire des abcès qui durent, on travaille à deux ou trois. Donc, c'est facile de dire, là tu m'emmerdes. Voilà. Donc, ça monte. Je veux dire, il y a des fois où c'est un peu tendu, mais ça redescend finalement assez vite, sans créer d'abcès. Voilà. Ça, je trouve ça chouette.
Carrément. Puis on bouge pas ensemble le soir, quoi. Et ça, c'est plus facile. Les abcès sont plus faciles à crever que quand on bossait avec nos mecs et que c'était tendu avec nos mecs.
Ah oui, d'accord.
C'est quand même une nette amélioration dans nos vies, Betty, je trouve.
Oui,
parce que
mais oui.
Du temps où on était toutes les deux agricultrices, on n'était pas seules. Hein. On était agricultrices avec nos mecs qui étaient, eux, chefs d'entreprise. Moi, j'ai eu la très bonne idée de jamais vouloir m'installer. Avec mon amour du travail et ma peur de m'engager, j'ai jamais voulu m'installer officiellement agricultrice, donc j'ai été ce qu'on appelle conjointe collaboratrice, ce qui est un statut vraiment de merde, parce que tu travailles autant, voire plus, et en fait, tu n'as aucune reconnaissance sociale de ton travail. Je suis contente là de bosser en équipe féminine et que ce soit des copines et de ne pas vivre avec mon équipe de travail. Je trouve qu'il y a de l'oxygène du coup.
Ouais. C'est pas rien aussi de faire une activité dans un petit village comme ça qui fait de l'emploi. Mmh. C'est énorme. Après, voilà, je rêve qu'il y ait des endroits pour que des familles s'installent et que, voilà, il y ait plus de personnes qui s'installent ici pour dynamiser le village parce qu'il y a encore beaucoup trop de maisons secondaires dans ces villages et c'est dommage, voilà. S'il y a je pense que s'il y avait des logements, je pourrais peut-être trouver des gens qui voudraient s'installer ici et travailler. On verra ce que la vie amènera.
Por las calles de Congo toleré.
Merci beaucoup, Lucille, pour ce documentaire, en fait, sur ce fournil et sur ces trois femmes et leurs témoignages. On a demandé au collectif de poser quelques questions qu'elles avaient envie de poser autour de cette expérience que tu as eue, cette rencontre. Et du coup, la première question qu'on se posait, c'est qu'est-ce qui t'a motivé à faire ce montage ?
Eh ben, du coup, vous l'avez sûrement compris, mais moi, j'ai travaillé du coup avec ces... J'étais dans l'équipe pendant deux mois et demi à peu près cet été. Et donc, ce qui m'a motivée, ben, j'ai eu l'occasion de les rencontrer avant cet été, en avril. Je sais pas, cette petite équipe composée que de femmes m'a beaucoup inspirée. Elles ont, je trouve, des parcours assez inspirants, avec comme point commun, ben, de vivre en montagne et aussi de changer d'activité professionnelle. Elles ont fait plein de choses dans leur vie, notamment des activités qui sont vraiment liées au milieu rural. Et moi, j'avoue, ça m'intrigue et ça me parle parce que peut-être j'ai envie d'y tendre. Du coup, il y avait de ça, puis j'avais envie de creuser, de percevoir chez elles ce qui leur plaisait dans le fait de travailler qu'entre femmes. Parce que bah, moi, j'ai vraiment adoré d'être dans une équipe que de meufs. Et parce que, bah, voilà, pour plein de raisons, je me suis sentie beaucoup plus moi-même. Je me sentais plus autorisée à exprimer quand ça allait ou quand ça allait pas. Que quand j'avais des doutes sur les compétences. Et moins ressentir de pression aussi, de pression de réussir ou de pression de toujours bien faire. Et voilà.
Et du coup, on se demandait aussi, bah, toi, qu'est-ce qui t'avait mené en fait à devenir boulangère ? Parce que tu parles et on voit dans le parcours de ces femmes qu'elles ont des parcours où elles ont beaucoup changé de métier. Et elles alternent même avec des métiers manuels ou plus dits intellectuels. Et du coup, on se demandait si c'est ton cas aussi et si tu avais quelque chose à partager là-dessus.
Eh bien oui, moi j'étais éducatrice à l'environnement avant, donc des profils qui sont assez proches finalement, au moins de celui de Julie qui était dans l'éducation populaire avant. Et ça fait un an que je suis... Enfin, j'ai passé mon CAP en candidate libre l'année dernière dans une école autogérée qui fait partie d'un réseau qui s'appelle l'IBM, l'International Boulangerie Mobilisée. Ce serait trop bien qu'on fasse une émission là-dessus un jour. Je vais creuser l'affaire. Et parce que moi, j'avais aussi un besoin de lâcher le cerveau et de faire des choses avec mes mains et aussi de faire un travail valorisant où il y avait un résultat immédiat pour pouvoir observer ce résultat. Et moi, j'avais besoin de cette valorisation aussi de résultats.
On avait... une des choses, moi, qui m'a frappée en écoutant ce son... c'est à quel point elles ont l'air de bien s'entendre, en fait. Et comme tu as travaillé avec elles, peut-être tu peux nous en dire un peu plus sur comment c'est cette ambiance et est-ce que tu perçois une solidarité qu'il y a entre femmes à l'intérieur de cette équipe ?
Ben oui, ben déjà, alors c'est... dans l'équipe, il y en a deux qui se connaissent très très bien. Donc c'est Cécile et Betty. Elles en parlent d'ailleurs de leur amitié. Elles se connaissent depuis plus de 20 ans. Et avec Julie, elles se connaissent un peu moins bien. Mais Julie et Cécile sont aussi amies et elles ont appris à se connaître. Et donc c'est quand même une équipe aussi d'amis. Et donc quand il y a des problématiques pour l'une d'entre elles, elles sont très compréhensives entre elles pour justement faciliter la vie de chacune avec leurs contraintes, que ce soit liées à la famille ou à d'autres travails ou à des envies, à des projets. Donc là, moi je trouve qu'il y a une très belle solidarité entre elles au sein de trouver des aménagements de planning, des aménagements de plein de choses pour que chacune se sente bien. Après, ça n'évite pas des moments de tension. À un moment donné, Betty parle d'atmosphère électrique. Ça arrive qu'il y ait des tensions et que ce soit un peu plus compliqué. Mais il y a toujours, c'est comme elle le dit aussi, c'est une petite équipe et il y a toujours moyen de poser, de discuter et justement aussi parce qu'elles ont des relations amicales, d'en discuter et de passer outre. Et puis voilà, elles ne couchent pas ensemble le soir, elles ne voient pas, du coup elles passent outre assez vite aussi.
Ouais. On a Tu me parlais tout à l'heure en off de aussi comment elles vivent dans la montagne. Je me disais que ça pourrait être intéressant que tu le partages un peu, parce qu'effectivement, après on va parler plus de montagne, et c'est vrai que c'est aussi une boulangerie qui est dans un cadre assez particulier. Donc.
Ouais, elles ont tout un rapport avec la montagne qui est surtout quotidien, même si elles ont aussi, par exemple, Cécile, elle a grandi dans la vallée de la Clarée, qui est vers Briançon, à la frontière italienne. Et donc, elle a vraiment grandi dans les hautes montagnes, proche de la haute montagne. Et donc, elle a aussi fait de l'alpinisme dans sa vie. Et Julie et Betty, en tout cas, aujourd'hui, elles sont pas dans l'alpinisme et tout, mais elles ont un rapport avec la montagne, de la randonnée et tout ça. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus lié au quotidien. Enfin, voilà, Julie, maintenant, elle a un fournil qui est perché à 1200 mètres, qui est dans la montagne. Et Betty... voilà, elle travaille dans ce fournil et la montagne est intégrée dans leur vie, mais il n'y a pas ce rapport de performance et sportif qu'il peut y avoir aussi. Des fois, j'ai l'impression très fort avec des gens qui ne vivent pas forcément en montagne, mais qui vont la découvrir.
Mmh. Et c'est vrai que pour parler du quotidien, tu t'évoquais le fait que le soir, ça se couche très très tôt, parce que on est enclavé entre des montagnes, donc le soleil il disparaît un peu plus tôt qu'autre part. Et pour finir dans les questions qu'on avait, on se posait la question, il y a une chanson qui est passée à la fin du petit documentaire qui s'appelle Las Panaderas. Et on se demandait si tu pouvais nous dire quelques mots sur c'est quoi cette chanson.
Ouais, c'est une chanson que la première fois que je l'ai entendue, c'est dans le réseau de l'IBM avec des femmes de ce réseau qui sont mis à faire de la rythmique de cette chanson et qui sont mises à la chanter. Et donc, c'est une chanson qui est régulièrement chantée dans des différentes chorales de lutte, féministes ou pas. Et c'est une chanson, a priori, qui vient de Castille et qui, dans les milieux ruraux. Les Castillans avaient cette habitude d'avoir des chants autour des travaux manuels, autour des métiers manuels. Mmh. Et donc là, en l'occurrence, c'est un chant sur la boulangerie. Et du coup, la rythmique derrière, qui est faite avec leurs mains... Elle vient rappeler un peu le côté répétitif des tâches de ces métiers.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Ces explications en plus. Pour faire une petite transition avec le reste de l'émission, pour moi, ce son, en fait, il m'a pas mal touchée parce que je viens de village en Haute-Savoie. Alors, c'est pas les Hautes-Alpes, mais c'est quand même de la montagne, là où j'ai vécu enfant. Et en fait, il y a souvent des femmes qui ont été des figures auprès de moi. Il y a ma voisine fermière qui nous autorisait à venir voir les vaches, les veaux, à les observer quand on était enfant. Il y a la mère d'une amie qui potageait beaucoup et qui a transmis à sa fille l'intérêt de potager en gardant les graines et en réutilisant les graines, en les échangeant. Il y a aussi la mère d'une autre amie qui est artiste et comédienne et qui m'a appris à comment utiliser une machine à coudre. Et en fait... Là, je parle de femmes de tout âge parce qu'il y a aussi maintenant mes amis. J'ai beaucoup d'amis, j'ai pas mal d'amis qui sont restés là-bas et qui restent très attachés en fait à leur maison, à leur village, à leur famille là-bas. Et même parmi ces amis, des personnes qui avaient un rapport un peu d'amour vache et ambigu à la montagne quand on était jeune, parce que c'était aussi être un peu loin de la ville, loin de là où il nous paraissait que les choses se passaient, etc. Et qui maintenant jurent que par elles. Et du coup, moi, je me sens parfois un peu en décalage parce que j'ai un peu fait un exode rural. Mais je fais des recherches parce que j'écris des textes autour des montagnes de Haute-Savoie dans lesquels je développe des personnages LGBT et queer. Et en fait, en préparant l'émission, je me suis replongée un peu dans mes recherches. Et près de chez mes parents, il y a un musée qui est dit un musée paysan autour de la culture et du patrimoine en Haute-Savoie. Et j'ai trouvé sur leur site une jolie photo aussi de femmes qui sortent des épognes, c'est des grosses brioches, du four à pain à Ville-en-Sala. C'est tout près du village où on habite. Et donc ça, c'est encore le type d'usage qu'on peut avoir aussi de boulangerie plus, je ne sais pas, villageoise, pas du tout professionnelle qui se fait dans certains endroits. Notamment le 15 août, c'est des fois, il y a des villages qui font un gros... four à pain pour tout le village, etc. Et par contre, quand j'ai cherché sur ce site du musée paysan, quand j'écris homosexuel, trans ou LGBT, par contre, dans la barre de recherche, je ne trouve rien. Ce qui me fait penser qu'il faudrait constituer ces archives, aller trouver des personnes en fait, qui aimeraient témoigner. Mais je suis tombée sur un témoignage audio qui s'appelle « Portrait en altitude, conditions de femmes d'agriculteurs, Louisa Alamand et Evelyne Ray ». Et en fait, ce témoignage, je n'ai pas pu le prendre parce qu'on n'a vraisemblablement pas les droits pour le sortir de la plateforme. Mais dedans, Louisa Alamand, elle raconte à un moment comment elle n'a jamais pu digérer que deux hommes qui sont assis sur un banc pendant 2 heures, c'était qu'ils étaient malins et qu'ils parlaient de travail, alors que deux femmes ensemble qui auraient été 2 ans sur un banc, ça aurait été des grosses feignantes. Et donc, c'est vraiment ces deux témoignages, elles parlent vraiment de la différence entre les hommes et les femmes au sein des alpages, dans les villages de montagne. Et elle explique aussi qu'elle aurait voulu faire une sortie. Par une sortie, elle entend aller dans d'autres villages, sortir un peu de sa vallée, quoi. Mais que c'était mal vu, un homme qui sortait avec sa femme, avec une femme. Pourtant, je cite, « Je marchais à ce temps-là, non d'une pipe », dit-elle. Et donc, voilà, si je peux faire un petit conseil, c'est d'aller écouter ces témoignages, parce qu'ils sont très touchants. Et ça permet aussi de voir d'autres vécus en fait, de femmes en montagne. Normalement, si vous écrivez le titre sur Internet, vous pouvez trouver. Sinon, vous marquez « Musée paysan » et vous marquez « Femmes » dans la barre de recherche, vous devrez le retrouver. On le remettra dans les liens pour écouter le podcast.
Voilà. Trop bien. Ça donne envie de faire un peu des enquêtes sociologiques dans les différentes vallées et de noter un peu... les grandes figures féminines qui existent. Enfin, je sais que moi, j'avais entendu parler d'une femme qui vient d'un village qui s'appelle Moline dans le Champsaur, qui est pareil dans les Hautes-Alpes. Et c'était apparemment une sacrée meuf qui passait son temps à aller faire tous les bals des villages et du coin. Et du coup, elle y allait en ski parce que voilà, il fallait traverser les vallées. Et du coup, elle allait... Enfin, voilà, il y a des beaux personnages à révéler. Et donc Manon, Eliane, tu voulais nous faire écouter une musique qui vient des montagnes d'ailleurs, très typique. Alors dans les Hautes-Alpes, on ne connaît pas trop ça, mais tu vas nous en parler, ça s'appelle le yodel.
Ouais, le yodel. En fait, je me suis rappelé que mon adelphe, donc c'est pour ne pas dire mon frère ou ma sœur, c'est neutre, Meret et son amie Vicky, qui est suisse-allemande, chantent des yodels. Donc le yodel, c'est un chant qui fait alterner une voix de poitrine, donc une voix où on chante à partir de nos poitrines et une voix de tête où on chante à partir de la tête. Et c'est un type de chant qui s'est beaucoup développé dans certaines montagnes comme l'Autriche. Enfin, dans les Alpes, c'est l'Autriche, c'est la... Il y a aussi la Suisse. Et donc, j'ai demandé à Meret de m'expliquer un peu mieux ce que c'était. Et ensuite, je vous passe un son qui s'appelle Freudenberg Yodel.
Sur le yodel, ben, je vais te dire ce que je sais qui n'est pas grand-chose. Mais alors le yodel en Suisse, c'est un moyen de communiquer entre vallées. Et il y a toute un yodel, disons, archaïque, ancestral, qui a en plus la particularité d'être en harmonique naturelle. Enfin, en gros, d'être un peu pré-tempéré. On appelle ça Naturyodel. Vraiment sur les harmoniques telles qu'elles se trouvent dans la nature et pas telles qu'elles ont été réglées ensuite par un piano. Et ça, c'est un yodel qui se fait seulement sur les voyelles O et U. O, ou, 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 ce genre de choses. Et donc O pour tout ce qui est registre de poitrine, ou pour tout ce qui est registre de tête. Et basta, pas d'autres voyelles, pas de consonnes, pas de paroles. Et ensuite, il y a un yodel plus moderne où il y a des parties de yodel entrecoupées de couplets qui racontent des histoires. C'est le cas notamment du yodel qu'on chante avec Vicky, Yogis Freud. Ce yodel bernois. Dans notre CD, on a 3 yodels. On en a un On en a deux sans parole et un avec parole. Celui parole, c'est ce bernois que je te disais, Yogis Freud. Et sinon, il y a Freudenberg, qui est le premier qu'on chante, je crois, sur le CD. Et ça, je ne saurais pas vraiment le dater, mais je pense que c'est un peu entre les deux, pour le coup. C'est pas tout à fait ancien et c'est pas tout à fait nouveau, parce qu'il n'y a pas non plus des paroles. Je crois que je t'ai dit tout ce que je sais sur le yodel. même ce que je ne sais pas. Et ben, pour contextualiser, je ne suis vraiment pas une personne experte en ces chants-là. Je n'ai pas été dans les territoires où vraiment ces traditions sont vivantes, où c'est encore des chœurs de paysans qui les chantent. J'ai appris avec des personnes qui le font déjà comme leur métier, qui sont chanteuses. Donc, il y a déjà cette, on pourrait dire, cette... ce pas de plus ou cette coupure par rapport à la forme traditionnelle qui est de village et pas d'en vivre, quoi, que c'est juste une pratique où on se retrouve pour chanter. Et ça, c'est vivant encore en Appenzell, dans le Toggenburg, dans le centre de la Suisse. Il y a pas mal d'endroits où c'est encore où ça existe encore sous cette forme-là. Voilà. Quand je disais les histoires de « o » et « ou », c'est aussi pour le différencier du yodel tyrolien, où il y a beaucoup plus de voyelles et ces trucs de faire un peu « yodle, 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 ou ». Ça, c'est vraiment typique Tyrol, Autriche donc, et pas Suisse. Voilà, pour les différences.
Ben, merci Eliam pour ce partage qui était donc une chanson du groupe Vocal Cheese dont fait partie ton Adelph.
Oui, interprétée par le groupe Vocal Cheese parce que du coup c'est du répertoire plus traditionnel suisse.
Trop bien. Là, on va juste faire une petite annonce spéciale FPP. On a ici avec nous des flyers qui rappellent que, du coup, FPP, donc Fréquence Paris Pluriel, la radio associative où Langue de Fronde fait son émission, des problématiques qui va sûrement l'amener à peut-être disparaître. Enfin, on n'en est pas là, mais en tout cas, il y a des problèmes qui sont à régler. Et donc, il y a une manière d'aider pour les personnes qui ont participé à un moment donné, qui ont été intervenants ou des auditeurs, d'aider la radio en envoyant une lettre à la boîte mail de FPP. Je pense que vous trouvez toutes les infos sur le site. Pour justement expliquer qu'est-ce que vous avez écouté, dans quelle émission vous avez participé pour justifier de l'utilité sociale qui permettrait à FPP de mériter de certaines aides. Voilà, donc n'hésitez pas pour maintenir la radio associative. Et nous, on enchaîne avec nos histoires de montagne et de femmes. Donc là, on va arriver à un moment d'un avis d'écoute. C'est une proposition d'Eliam qui... donc l'avis d'écoute, c'est l'équivalent d'un avis de lecture, mais pour du son.
Voilà.
Et donc, Eliam, tu souhaites nous parler d'un coup de cœur que tu as eu cet été?
Oui, tout à fait. Ce coup de cœur, en fait, j'aimerais vous parler d'un podcast qui s'appelle Face Nord. Face au pluriel, qui est produit à la RTS, c'est la radio-télévision suisse. Donc on est presque sur beaucoup de la Suisse là. Donc pour vous la citer entièrement, c'est un podcast qui a été fait par Maya Chollet, réalisé par Didier Rossa, produit par Grégoire Moll. La musique c'est de Patricia Brossard et les textes sont lus par Simon Matédoré. Dans ce petit avis, je vais vous faire trois citations sonores du podcast qui apparaissent dans cet avis. C'est pour illustrer. Je peux pas mettre beaucoup plus, d'abord parce que j'aimerais pas trop vous spoiler, mais aussi parce que pour des raisons de droit d'auteur, ces extraits, ils doivent être courts. Et ce sont des extraits qui sont issus de l'épisode 1 et de l'épisode 5 de la saison 1. Là encore, pour pas vous spoiler trop. Face Nord, c'est un podcast qui est en deux saisons, dans lequel Maya Chollet, qui est journaliste mais qui est aussi une alpiniste suisse, a décidé de tenter de gravir les trois faces nord, c'est-à-dire les trois faces de montagne orientées au nord les plus dures en Europe dans les Alpes. On va vous passer un premier extrait.
Face Nord, un podcast de la RTS.
La face nord. Longtemps, la difficulté suprême en alpinisme. Le froid, la glace, le risque, les chutes de pierre, parfois la mort. Pendant des décennies, trois faces nord restent invaincues, alors que tous les sommets des Alpes ont déjà été gravis au moins une fois depuis bien longtemps. Les trois derniers problèmes des Alpes. La face nord du Cervin, la face nord des Grandes Jorasses, la face nord de l'Aiguère. Des faces dans lesquelles des dizaines d'alpinistes ont perdu la vie.
Alors déjà, la première chose qui, moi, m'a beaucoup plu dans ce podcast, et je pense que c'est pour ça qu'il mérite qu'on y jette une oreille, c'est la fascination qu'il y a à écouter le son. Parce qu'en fait, les personnes qui l'ont créé, ce podcast, ont accroché des enregistreurs sur les personnes qui allaient faire leur course d'alpinisme, donc Maya Chollet et ses guides. Et du coup, durant toutes les montées et toutes les ascensions qu'il y a dans le podcast, les enregistreurs sont enregistrés et du coup, on suit vraiment, on entend avec eux ce qu'ils se disent, comment ils communiquent. On suit Maya qui est d'un optimisme à toute épreuve et on entend aussi les pierres qui glissent, les piolets, les bruits des vestes qu'on zippe, les pas dans la neige et c'est une immersion qui, moi, m'a beaucoup parlé. Et je dois avouer aussi que la voix très apaisante de Maya était très agréable et ça contrebalance un peu la musique qui, vous l'avez peut-être perçue dans l'extrait, est assez lancinante. Et les sujets qui peuvent être assez durs, comme celle des morts en montagne, parce que c'est quand même beaucoup à aborder. Donc voilà, je vais vous mettre un deuxième extrait qui illustre ça un peu.
Purée, alors,
on est sous des énormes stalactites. Ils font en tout cas 10 mètres. Ils nous touchent presque la tête. Et Lorenz, il est en train de monter une partie super dure. La glace, ça fait... C'est vrai que ça fait comme un petit balcon suspendu dans le vide, un balcon de glace. Puis s'il peut aller là-dessus, on aura l'impression qu'il est suspendu sur de la glace dans le vide. On voit juste le casque de Lorenz qui dépasse.
Ok.
En plus du son, la deuxième raison qui m'a fait aimer autant ce podcast, c'est qu'on est sur un podcast qui couvre deux saisons, qui s'étale à peu près sur 2 années. Et Maya dit à plusieurs fois que c'est une aventure humaine avant tout, avant toute chose, avant même la difficulté des conditions extrêmes d'être dans le froid, dans la neige, contre de la glace, contre des pierres. Ce qui prime, c'est que le facteur humain est très fort. Et en fait, on le perçoit à travers la narration du podcast. En fait, dès qu'il y a des émotions, la peur, la difficulté que c'est de se dire qu'on le sent pas et que là, on devrait peut-être faire demi-tour parce que juste, on se sent pas de continuer. Et de l'avouer, en fait, à s'accorder, parce que souvent... Alors, ça existe, hein, des alpinistes qui montent seuls. Mais souvent, c'est quand même des cordées. Et là, pour le coup, on suit vraiment des cordées. Aussi, par rapport aux conditions. Parfois, s'il y a un doute, c'est la précaution qu'on privilégie. Et ça va aussi générer une grande frustration, autant pour les personnes qui grimpent, mais aussi, du coup, pour les auditeuristes. Et il y a tous ces moments de discussion, d'échange entre Maya et ses guides, les moments de communication quand ils grimpent, comment s'indiquer qu'on redémarre, comment indiquer qu'on doit nous attendre. Et je pense que c'est vraiment ces éléments-là qui font qu'on ne lâche pas le podcast, que ça produit en fait un vrai suspense. Et par exemple, pour donner un exemple un peu plus concret, quand moi je l'ai écouté cet été, c'était en même temps que 2 ou 3 personnes, parce qu'on se l'est un peu conseillé entre personnes, et on se faisait des réacts à chaque rebondissement. On avait vraiment, c'était notre feuilleton de l'été, quoi. On se racontait ce qui se passait au fur et à mesure. Et donc, ouais, j'avais rarement ressenti ça, en fait, autant, parce que souvent, j'écoute plutôt des formes de podcasts qui, chaque épisode, raconte quelque chose. Et là, c'était vraiment, ça formait un tout plus solide. Voilà. Et pour prendre un peu de la distance critique, alors c'est pas de la distance critique sur le podcast en lui-même, mais c'est plus de la distance critique sur ce que ça révèle de notre société, c'est que par contre c'est une majorité d'hommes qu'on entend, malgré le fait que la protagoniste principale soit une journaliste et une femme. Il y a des livres qui sont cités dans le podcast qui n'évoquent en fait que des hommes alpinistes. Le livre principal qui est cité, c'est « Les 3 derniers problèmes des Alpes » de Under Elkmar, qui est un des premiers qui a été dans la première cordée à gravir la face nord de l'Eiger en Suisse, en entier et à en revenir vivant, donc pour pouvoir en parler. Et donc là, on va vous en passer un petit extrait.
Alors que je m'en vais en boitillant, le pied toujours dans le plâtre, une nouvelle sensationnelle provoque l'effervescence dans le monde alpin. Une tentative sur la face nord de l'Eiger. Cette fois encore, ce sont 2 Munichois, Max Sedlmayr et Karl Mehringer, qui osent tenter l'impossible. Je connais très peu Mehringer, mais je sais que Sedlmayr est un excellent grimpeur. Malheureusement, ils n'ont ni l'un ni l'autre l'expérience de la glace.
Et donc, en plus d'avoir ces témoignages plutôt d'hommes issus des livres auxquels on a des références dans le podcast, les guides qui accompagnent Maya Chollet durant tout le podcast sont tous des hommes. Alors, ça aurait pu être des femmes parce que ça existe, ils évoquent leurs collègues femmes pour les faire quand même exister. Mais c'est vrai que du coup, ça donne un peu l'impression que les plus expérimentés, ceux qui arrivent à une professionnalisation de l'alpinisme, ce sont des hommes. Et je pense que si on regarde les statistiques, j'ai pas été voir, mais je pense que je prends pas trop de risques à le dire, ce sont quand même, c'est quand même une profession plutôt masculine. Et il y a une de nos camarades de la radio, Astrid, qui nous a conseillé un livre qui s'appelle « Méfiez-vous des femmes qui marchent » de Annabelle Apps. Et dans l'intro de ce livre, l'autrice explique qu'elle lisait beaucoup de livres autour de la montagne, du voyage, de la marche, et qu'en fait, un jour, elle a regardé sa pile à lire et ça contenait que des livres écrits par des hommes qui marchaient, qui découvraient le monde, et que ça a été un des moteurs pour elle, non seulement d'aller chercher des femmes qui avaient fait les mêmes démarches, et elle-même d'aller marcher. Alors moi, j'ai aussi fait mes petites recherches sur l'alpinisme, et après avoir fait avoir passé quelques temps sur les internets, très peu de temps en vrai, on voit qu'il y a eu beaucoup de femmes qui aussi, dès les débuts de l'alpinisme, ont gravi des montagnes. Pour vous en donner quelques noms, il y a la comtesse française Henriette d'Angeville, qui a fait l'ascension du Mont Blanc en 1786. Pardon. Il y a des femmes issues de l'Angleterre victorienne au 19e siècle, comme Lucy Walker, Meta Briwoot et Elisabeth Leblond. Et il y en a plein d'autres. De ce que j'en ai vu, il y a beaucoup de récits de ces ascensions de femmes qui tournent autour des habits qu'elles portaient, parce que la bienveillance voulait qu'elles portent des jupes, mais celles-ci se retrouvaient souvent à les enlever, à en porter des plus courtes avec des pantalons en dessous, parce que bon, c'est quand même un peu plus pratique de gravir une montagne en pantalon qu'en robe. Mais apparemment, ça choquait un peu les esprits. Puis quand on regarde les images ou les photos, on les voit quand même en jupe. Ceci dit, elles étaient et elles demeurent moins nombreuses que les hommes. Le sexisme de notre société pour cause. Et il y a une sociologue, Delphine Moraldo, qui a fait une socio-histoire de l'alpinisme. Et dans son livre « Dans l'esprit de l'alpinisme, une sociologie de l'excellence du 19e siècle au 21e siècle » aux ENS éditions en 2021. Alors, je ne l'ai pas lu, mais on en a longuement parlé, puis j'ai vu quelques reviews sur Internet. Elle montre en fait une analyse historique depuis le début de l'alpinisme en Angleterre au 19e siècle jusqu'à aujourd'hui. Et elle montre qu'en plus d'être très masculin, c'est un sport qui réunissait au début essentiellement des membres de la bourgeoisie qui cultivaient une culture de l'excellence et donc un mépris de classe par la distinction de dire qu'on a gravi loin, haut, sur des montagnes particulièrement inaccessibles. Et de ce qu'analyse la sociologue, encore aujourd'hui, malgré la démocratisation de l'alpinisme, cette culture de l'excellence, elle est restée avec cette idée qu'il faut s'y engager corps et âme. Voilà, donc c'est aussi quelque chose que j'ai retrouvé dans le podcast de Maya Chollet. Pour conclure, en fait, quand on habite les montagnes, on a une part d'inaccessible qui nous reste avec les montagnes et les alpinistes, c'est ceux qui les explorent. Et moi, j'ai beaucoup aimé être comme un petit être perché sur leurs épaules. Voilà. On va conclure en remerciant FPP encore une fois, en remerciant Théo et Joséphine à la technique, et puis bien sûr Lucille avec moi sur le plateau.
Et Eliam, bien sûr. Merci beaucoup Eliam pour tous ces partages.
Et on vous dit au revoir et à très vite sur les ondes de FPP 106.3 FM ou sur les sites de podcast Langue de Fronde et Radio Rageuse.
Tannegret has nit versta. Dass der Jogi dem Mann ging so spät vom Wirtshus kund. Ging so spät vom Wirtshus kund. Ja, Lord.